France Inter.
C'est la bande originale. Avec Lisa Bermoxier, Tristan Lopin.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol, Tony Bassureau, Daniel Morin, nos invités Emmanuel Gacco et Benjamin Wazard.
Bonjour.
C'est quoi ce vieux matou là?
Non.
Ouais, je travaille ma voix de radio de plus en plus.
Moi je trouvais, c'est ça, je trouvais animateur radio des années 80 sur FM.
Un vieux matou.
Bonjour à tout le monde, salut les cocottes. La petite aiguille est sur le 3, la grande sur le 12. Il est 15h.
Grand moment de solitude, Emmanuel, déjà.
Absolument. Merci d'être là, Emmanuel.
Ouais,
merci
d'être là,
Benjamin. Merci de rester. Merci d'être venu avec des préservatifs. Ça peut toujours servir. Ouais. On a eu droit à une distribution de préservatifs.
Ouais. Chacun sa capote.
Sur lequel il est écrit, l'important est de participer.
Ouais. Ce qui l'histoire
résume,
de ma vie.
Qui résume beaucoup de vie ici autour de ça.
C'est ce qui m'arrange.
Point de vue masculin quand même.
Oui, c'est vrai.
Pardon ?
Non.
Préservatif masculin, oui.
J'ai point de vue masculin.
Oui, absolument. Et préservatif masculin aussi.
Ah,
avant,
tout de suite.
Hein. Avant,
c'est hyper long,
avant de parler du film qui sortira, un film de Jérémy Sain qui est en salle depuis mercredi, on va écouter et découvrir l'interprète de... Alors, je vais vous aider, il y a deux interprètes, je veux les deux noms, s'il vous plaît.
Tranquille.
Tristan.
Oui.
Pascal Obispo.
Premier
j'ai pas l'autre.
Bah, calme-toi.
Sur le même temps.
Alexis de téléphone, Jean-Louis Aubert.
Alexis de téléphone.
Alexis. Jean-Louis Aubert. Non, c'est pas lui.
Non. Là, c'est toujours Pascal Obispo, bien joué.
Ouais.
Mais lui faisait ses
toujours.
Petites
bricoles. En même temps, il chante 3 minutes 12.
Il faisait ses petites bricoles.
Mais c'est pas cette chanson,
Alexis Souchon.
Ça s'appelle l'esprit de Grand Prix. Déjà, il y a esprit dans le titre, mais l'autre arrive maintenant. Tristan, c'est le moment. Ah non, c'est pas maintenant.
C'est long.
Ex-animateur des années 80.
C'est un duo, du coup, vraiment.
Ouais, c'est un vrai duo. Ouais.
Mais
c'est Vianney. Il est loin.
C'est Vianney.
Ex-animateur.
Alexis, Eddie Mitchell.
Eddie Mitchell, bravo.
Joli. Vous avez chacun un point, bien joué.
Ouais, ouais. Ah bon.
Ouais.
Allez.
On n'avait jamais partagé autant de choses.
ZZ Top ?
Non.
C'est pas Johnny, c'est pas...
Daniel, Dire Straits ?
Ah, c'est vrai que ça pourrait.
Ouais.
Ah. Super cool. Non, ça vous dit rien ?
Carla Bruni ?
Carla Bruni ?
Non. Ouais, pas loin. Ça s'appelle Spirit in the Sky.
Non.
Ah, je croyais que vous connaissiez ça. Ça ne veut dire rien à personne. Non. Manuel non plus ? Benjamin non plus ? Rien. Okay. Le groupe s'appelle...
Alexis.
Lisa.
How about Chili Peppers ?
Non, Lisa.
Non.
Blur.
Non.
Mais non,
Nirvana.
Oui, Nirvana, bien joué.
Je crois que dit avant, je crois.
Et bien bon ?
Non, moi je n'ai pas ça.
Moi j'ai dit.
Ouais.
C'est Lisa.
Ok, Lisa. Nirvana, Smell Like Teen
Spirit.
Spirit, merci. Et là ? Oh là là. Ok.
C'est dur aujourd'hui.
Je me suis viandé, mais total. Alors.
Ah, Tristan. Police.
Mais viens.
Mais viens.
Viens. À une lettre, mec, si j'avais de la capote. C'était fini. Spirit in the Material World. Bien joué. Qui chante ça?
Daniel.
Oui.
Pierre Perret.
Oui.
Alexis, Radiohead.
Ouais,
joli,
ouais.
Radiohead avec Street Spirit. Bien joué.
Bien ça.
Il y a beaucoup de spirit partout.
C'est pas ça le thème ?
Si. Et là. Toujours spirit dans le titre. Oui, bien joué, Spirit of Night, Daniel.
Il en reste combien ?
17.
Tout se joue là. Ça s'appelle Spirit, tout simplement.
Le Roi Lion.
L'abandon, quoi.
C'est un homme, une femme?
Bah écoute.
Oui, mais ça, c'est l'intro, ça compte pas. C'est pas la vraie voix.
Elle arrive.
Tristan, c'est pas Beyoncé?
Mais ouais. Wow.
C'est la VO du Roi Lion.
Sans écouter.
J'ai senti qu'elle allait arriver. Ah, ouais, c'est les jeunes homosexuels, c'est très fort.
J'ai dit royaume en même temps.
Oh, ça m'a amené un peu sur
la piste. Qui dit que j'avais pas tort.
Ça m'a amené un peu sur la piste.
C'est vrai qu'elle a dit royaume.
C'est pas grave, je m'en fous.
Mais t'as pas dit Beyoncé. Mmh. Victoire de Tristan Lobin.
Avec Nagui et
Leïla Kadou.
Ah, une capote en plus, chouette. Depuis ce 8 mai, donc l'esprit Coubertin, l'important c'est de participer. Un film totalement, je sais pas comment en parler, totalement déjanté, extrêmement drôle. J'espère qu'il n'est pas trop prémonitoire. Quoique, qui annonce en fait une équipe de France totalement
nulle,
à la déroute, avec un village.
Il la résume.
Oui, oui, ils sont déjà à Brège. Moi, je suis à Brège.
Ils n'ont aucune médaille. Ils sont même 34e, 38e, avec des journalistes qui viennent faire des flash infos tellement drôles. Vous vous rendez compte, on est derrière l'Espagne. C'est
la Belgique. Symbole de la honte, semblerait-il.
Ça t'a marqué. T'a marqué. Comment Jérémy vous a présenté ce film, Emmanuel Benjamin, en vous disant que c'était justement une sorte de parodie, de folie, ou qu'il y avait quand même des petits messages à faire passer? Allez Emmanuel, courage.
Ah non, il a plein de messages à faire passer. Non mais déjà, il nous a pas présenté le film, on a lu un scénario complètement singulier par rapport à tout ce qu'on peut lire. En tout cas,
quand on lit un scénario, on se rend pas forcément compte du ton,
totalement,
et du décalage.
Et à tel point que je me suis dit, bon, il faut absolument que je rencontre ce mec parce que le ton est tellement chelou. il faut qu'il m'explique ce qu'il veut faire. Et en effet, c'est quelqu'un qui a besoin de passer par l'absurde pour parler de choses qu'il travaille. Donc il y a un vernis potache, mais le film est très profond. Il parle de plein de choses sérieuses en dessous. Et
non, mais y compris sur l'intégration, sur les femmes dans le milieu du
oui,
sport.
Oui, c'est une critique en sourdine de l'esprit de compétition, du virilisme. C'est une satire du monde médiatique et politique autour du sport. Enfin, il y a évidemment plein de choses. C'est un film qui est finalement profondément humaniste. Qui parle de fraternité, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dire un peu des trucs?
Non, mais oui,
parce que là, il a dormi 30 minutes.
Benjamin, c'est pire. Il paraît que quand vous avez lu le scénario, vous avez dit je comprends rien.
Non, pas que je. Comment ça?
Que vous l'avez lu, vous ne saviez pas pour quel rôle vous.
Non, mais c'est ça, j'ai pas compris surtout pourquoi il m'appelait moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait?
Puis nous non plus, après.
Déjà que le film, comme dit Emmanuel, il y a un ton qui est un peu étrange, et en plus, il m'appelle moi pour jouer ce rôle-là.
On se dit, qu'est-ce que moi je peux apporter dans ma façon de jouer?
C'est pas ma cam de base. Et je me dis, putain, c'est. Quand on a un jeune réalisateur et qu'on veut faire son premier long, on est tenté d'aller vers la facilité.
Ouais.
C'est le cas de Jérémy Saint. non, pas la facilité de faire un premier long. Et Jérémy, justement, a l'audace de venir, moi, me chercher pour travailler ça parce qu'il voulait qu'il y ait la comédie. Il pensait avoir les épaules pour le faire. Mais en dessous, il voulait une sorte de noirceur, un peu de sérieux en dessous de tout ça.
Alors, vous êtes le fils d'un gendarme, vous êtes vous-même gendarme, vous avez une spécialité que j'ai découverte, je vais être très honnête.
Tu l'avais pas, voilà.
Le tir, oui, mais
c'est vitesse.
Avec 4 ou 5 cibles, allez.
5.
5, ouais.
Très bien.
5 cibles à 13 mètres.
À te voir.
25 mètres.
Ok, bon, je vais vous laisser.
Il bluffe.
et il est totalement dans une espèce de masculinité bloquée. Il est tétanisé dans son rôle de sportif avec son objectif de rendre fier son père qui n'est plus de ce monde et d'atteindre le record du monde. Extrêmement mal avec les autres, extrêmement beauf dans ses réflexions. Raciste. Xénophobe, il ne sait pas se comporter avec les filles, il n'a pas l'esprit olympique et il se demande c'est quoi l'esprit Coubertin. Lui, il ne sait pas. Et à côté de ça, il a une coach jouée par Emmanuel Berco, qui ne fait que mâcher son chewing-gum, et merci de ne pas l'avoir fait aujourd'hui, qui fait des bulles avec son chewing-gum, et qui, elle, est dans le... quoi. Il y a une espèce de revanche qu'elle veut prendre sur ce qu'elle a vécu, elle, dans le milieu sportif.
Elle est passée à ça, quoi.
Elle est passée à ça, et comme beaucoup de gens, j'imagine, dans le sport, mais aussi comme beaucoup de parents avec leurs enfants, ils vivent par procuration. Oui, elle fait un... À travers lui, elle arrive à atteindre quelque chose qu'elle n'a jamais pu atteindre elle-même. Donc, ça... Voilà, ça
et puis il y a un rapport coach, puis un rapport particulier aussi. On ne sait pas si c'est de l'amour, de l'amitié, de l'admiration.
Il y a une ambiguïté, il y a un malentendu.
C'est ça, il y en a beaucoup d'ambiguïté.
Il y a un malentendu de départ.
Elle lui a quand même collé une mononucléose, quoi.
Qui l'a empêché de participer au JO précédent.
Ça, c'est hilarant.
En tout cas, il y a une démonstration de roulage de pelle.
Cette scène est belle. On est bon, hein.
Montrer à tous les ados, et même au ralenti, bravo.
Surtout vous, parce que.
On a répété dans une salle, Emmanuel et moi.
Aucune faute, techniquement, c'était beau.
Avec un coordinateur
intimité.
Ouais, évidemment, ouais. Évidemment. Vous avez évidemment dit oui, Benjamin.
J'ai dit oui, je travaille, moi.
On va parler jusqu'à midi et demi de ce film, L'Esprit Coubertin, mais d'abord, voici Lisa Delmoitié. C'est elle.
Ah oui, c'est moi.
Alors vous n'auriez pas fait un film comme ça, vous?
Non. Non. Alors attention, film hilarant, casting 5 étoiles, mais c'est pas contre vous, Benjamin Voisin, mais j'ai toujours un peu de mal avec les beaux gosses qui sont les 10. Pour moi, c'est de l'appropriation culturelle. Ah, voilà. Un blanc joue pas un noir très bien, mais un beau qui joue un moche, s'il vous plaît. You, les directeurs de casting, vous pouvez pas trouver un mec moche pour jouer un mec moche? Parce que moi, j'en connais, hein. Bon.
Alors, il faut expliquer ce qui s'est passé.
Leïla a perdu son étanchéité.
Leïla a juste recraché tout ce qu'elle venait de boire.
Sur ses notes.
Et sur son téléphone. Et mets-le dans du riz, vite.
La blague était trop grave.
Je disais que je connais des moches. S'il s'agit que je mets une capote. Oula, bof. Donc, je connais des moches. Mon ex rêve de faire du cinéma, quoi. Voilà. Bon, après, je dis moche, évidemment, c'est subjectif. Hein. Mais disons que vous avez un look particulier, ça, on peut le dire, quoi. Vous êtes tireur de vitesse dans le film, vous êtes aussi puceau, et vous êtes très compétitif. Coïncidence, je ne pense pas. C'est facile de dire qu'on s'en fout de gagner et vive Coubertin, l'important c'est de participer quand t'es épanoui dans ta vie, dans ton slip. Mais votre perso, son épreuve des JO au pistolet, c'est littéralement sa seule chance de tirer son coup. Comprenez qu'il est la gagne. Ça confirme ma théorie selon laquelle les puceaux font des grands champions. Emmanuel Berco, vous êtes sa coach dans le film, et en parlant de coach de fiction, rappelez-vous dans Rocky, le coach de Sylvester Stallone capte qu'il fricote avec une meuf avant un match et il lui dit « Rocky, les femmes ramollissent les jambes ». Apparemment, mettre un pénis entre les cuisses, c'est comme mettre du beurre au micro-ondes ou la baguette dans du lait. Et il y a en réalité pas mal de boxeurs qui se privent de sexe avant une épreuve avec l'idée que si t'as du plaisir, tu perds en concentration et en motivation. À moi-même, quand vous m'avez engagé ici, je me suis dit, je veux faire comme Rocky. Voilà, pas de sexe la veille d'une chronique. On reste focus, quoi. Le problème, c'est que j'ai une chronique tous les jours. Ça commence à faire long, cette saison. Donc j'ai développé une autre technique maintenant que je conseille aux athlètes de la délégation française qui nous écoutent. Ne vous priez pas de sexe, ça c'est trop dur. Faites du sexe nul. S'il y a bien un truc pire que de pas baiser, c'est d'avoir passé la soirée à presque jouir. T'arrives à la compétition tellement frustré, t'es prêt à démonter ton adversaire alors que t'es en gymnastique. C'est pas de la boxe, mais la petite russe en face, tu lui fous de ses patates. Et c'est absurde évidemment de te priver de contact humain à la fin de ton épreuve. C'est de ça dont tu te souviens, c'est le côté humain. Pour moi au JO, l'important c'est pas de gagner. C'est pas non plus de participer d'ailleurs. L'important pour moi c'est de faire le show. Hein, les sportifs au final leur job c'est de divertir. Kylian Mbappé c'est juste Chantal là-dessous avec un ballon. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est que pour un sportif ou pour moi notre métier ne fait de sens que si on le partage avec des gens. Hein. Un médecin qui enlève une tumeur même si personne ne le regarde faire il est quand même utile. Mais si personne n'écoute mes chroniques elles servent à rien. Et si personne regarde les JO c'est pareil. Les JO sans spectateurs c'est juste des mecs qui gueulent en jetant des marteaux. C'est gentil mais pour ça on a le premier jour de solde chez Bricorama. -50%. Ah donc, second conseil pour la délégation française. Si vous sentez que vous allez perdre les athlètes, faites le show. Hein. C'est pas grave de perdre, mais juste divertissez-nous. Quoi, hein. À la gymnastique, en cas de chute, pas de stress. Juste arracher un des anneaux, trouver un nain, puis aller, je sais pas, partir le jeter dans le Mordor. L'anneau, hein, pas le nain. En saut de haie, si vous tombez, sortez de piste et passez à saut de mouton au-dessus de Jean-Luc. La haie. Symbolique.
Allez. Ouais.
symboliquement, voir un petit surmonter un prédateur, une image est forte en 2024. Ça va peser. Puis en haltérophilie, soulever d'autres trucs lourds au-dessus de votre tête. Hein. Je sais pas, moi, un sanglier, une enclume, mais blague. Ah, non, franchement, vu la lourdeur, si t'arrives à soulever mon jeu de mots du saut de Jean-Luc Lahaye, pour moi, bah, c'est l'or direct.
Bien.
Lisa Delmoitier,
hier,
qui est bonne en chronique, mais merveilleuse sur scène. Voilà. Hier, elle était à la nouvelle scène, c'était encore un exploit, c'était formidable.
Et jeudi prochain aussi, tous les jeudis.
C'est vrai.
Voilà, c'est ouais. Précis. Qu'est-ce que vous aviez comme image de l'olympisme avant de faire ce film, Emmanuel Bercoquet ? Quel est votre rapport au sport déjà, et en tout cas au spectacle du sport de haut niveau ?
Je ne regarde pas.
Du tout, ni les, les Coupes du Monde.
Je regarde que le tennis.
D'accord.
Que Roland-Garros.
Okay.
J'ai jamais regardé les JO. Ouais, ah, ça vous paraît bizarre ?
Non, jamais.
Ah
bon, même pas Marie-Josée Pérec, je sais pas. Non, un souvenir d'enfant.
Non, Usain Bolt,
non, je sais même pas sur quelle chaîne on trouve ça.
Mètres, tu... Bah oui. Ah oui. Usain Bolt, finale du 100 mètres.
Non, mais je connais les noms que vous citez, etc. Je les connais.
Vous mais vous n'êtes pas devant en direct.
Non, je ne suis pas devant, honnêtement. Okay. Je ne vais pas vous mentir.
Benjamin, vous,
donc, c'est pas un monde que je connais.
Ouais, beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Et les Jeux Olympiques, il y a vraiment ces 15 jours où je ne fais que ça.
Mais c'est totalement. Vous êtes très complémentaires tous les deux.
Et moi, il y a aussi ça. C'est un des trucs qui m'intéresse dans le film, c'est que j'aime beaucoup surtout les petits sports. J'aime bien me lever un vendredi à 10h, mettre devant la télé.
Voir le tir à l'arc, le curling, des trucs comme ça. Enfin, les trucs
tir à l'arc, à quel moment dans ta vie tu vas te faire les 10 meilleurs mecs au monde qui c'est tirent à l'arc super. Bah, ils s'affrontent. Bon, bah, vas-y. Alors, qui tire mieux, c'est qui Robin des Bois. C'est magnifique, quoi.
Oui, et puis surtout, c'est pour eux l'aboutissement de toute une vie d'entraînement, de dévotion, de
passion,
d'entêtement. Mais, et c'est le cas de Paul
Bosquet.
Paul Bosquet, le personnage que vous interprétez.
Surtout pour des sports pas exposés où les gars gagnent pas vraiment leur vie.
Alors, justement,
tu te dis quand même, il y a un truc pour eux, c'est leur grand moment, c'est de leur vie, sans doute, parce que tu fais pas 20 000 Olympiades dans ton existence.
Accueilli par Laura Felpin, qui est l'espèce de coordinatrice du village olympique. Il y a également, il faut préciser, la Grégoire Ludic, qui est une espèce d'enfoiré, mais qui le fait tellement bien.
Ancien judoka politique.
Lui, il a eu les médailles d'or.
Mais il a ça en lui, de toute façon, humainement.
De faire judoka.
et donc, dès l'instant où Laura Felpin vous accueille, on sent déjà qu'elle ne sait pas trop qui vous êtes, ni que vous avez été 5 fois champion du monde. On vous met dans une chambre à deux parce qu'on n'a pas la place et que vous êtes dans une catégorie, entre guillemets, vous n'êtes pas la star des Jeux Olympiques, une catégorie en dessous. Et là, vous vous retrouvez à devoir partager votre chambre avec Rivaldo Pawawi, qui est nageur. Mais qui fume, qui couche, qui boit, enfin qui a tous les vices.
Le côté cool, non, il est méga cool.
Et qui vient du Vanuatu,
qui sait pas nager surtout.
Ouais, qui ne sait pas nager du tout.
Alors ouais, alors qu'il
nage de façon démonstrative.
Ouais, le but est de parler un peu de son île. Ça, encore une fois, le film. Touche aussi à ça, sur l'écologie, sur la compréhension du monde dans lequel on vit.
Et le message politique, parce qu'Oratika, qui joue ministre des Sports...
Ça mourrait de rire, ça.
C'est formidable, qu'elle répète exactement la même phrase à tout le monde, sans savoir qui...
Et dès qu'elle dérive un peu, on sent que ça part en cacahuète. Elle reste protocolaire sur le texte.
C'est ça.
Ça mourrait de rire.
Et de rester sans aucune...
Pardon, elle est ministre des Sports, mais aussi, elle a tout un...
Un titre
elle,
très
elle
long.
Elle a plein d'autres ministères. Ouais. Dire aussi l'intérêt qu'on consacre au sport.
Jouer le personnage que vous jouez sans aucune autre expression que la sidération. On a l'impression qu'en fait, il est scotché par tout ce qui se passe et tout ce qui lui arrive, et il est un peu sans filtre dans ce qu'il dit.
Ouais, j'ai verrouillé beaucoup de choses. Hein. Je me suis un peu enfermé, mais je trouvais ça beau parce que moi j'ai de la famille qui vient de petits villages dans le sud-ouest où il y a 300-400 personnes et me dire putain, j'avais des potes qui étaient aussi très fermés, qui avaient des idées reçues, peut-être pas au point d'être raciste ou de tout ce qu'il y a dans le film, mais des trucs où tu te dis putain, ils sont complètement cons et c'est juste un manque de possibilités.
Ouais.
Et le fait de se planter là à Paris pour 15 jours et de devoir être là pour les Olympiques, qui est un événement magnifique, ah bah en fait oui, tout le monde se s'ouvre. Et ce que je trouve beau, c'est la relation avec Rivaldo. C'est comment le loser prend confiance avec le winner, mais surtout comment le winner est plus ému par entre guillemets le loser. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai truc la lose hyper beau entre les deux.
La lose à la française, Emmanuel Berco, c'est ce qui est abordé aussi dans le film, dès le début d'ailleurs, avec cette statue de Pierre de Coubertin
devant le buste,
entachée d'un tag ou en tout cas d'une espèce de
rouge.
Oui, non, mais quand on imagine qu'il y a une espèce de bombe de peinture qui a été envoyée dessus lors d'une manifestation. Et vous n'êtes pas du tout dans l'esprit de l'important, c'est participer. Vous êtes dans la win.
Dans la vie, si, mais mon personnage est dans la win. Oui, elle dit l'important, c'est de participer. Elle dit ça te donne une idée sur le côté loser du mec.
C'est ça.
Oui.
C'était drôle, voire cynique, de se moquer de la lose à la française, entre guillemets.
Ah ouais, bien sûr. De toute façon, c'était un tournage extrêmement joyeux. C'était très bizarre parce qu'on tournait, dans un lieu unique. Tout le monde était en jogging de...
Qui symbolise le village olympique.
Ouais, l'enceinte.
Donc voilà. On croisait que des gens en jogging, etc. Et c'était bien reconstitué, donc on avait vraiment l'impression d'être dans un village olympique. Enfin, moi, je m'y suis un peu cru. Mais c'était un peu tout toc. Un peu cheap.
Déjà la loose. Déjà un peu la loose.
Ouais. Déjà, un peu la loose. Il y avait un truc un peu.
Ouais, c'était cool.
Suzy Bemba, Chloé Le Cref, Kevin Garnicha et Yi Young Kim, entre autres, tout ça réalisé pour son premier film par Jérémy Saint. Voici Tristan Lopin.
Alors je suis très gêné parce que depuis la suspension de Guillaume Meurice par Radio France, nombreux sont les chroniqueurs à lui apporter leur soutien et c'est super là-dessus, vraiment je suis hyper d'accord. Toute cette histoire de prépuce, ça va beaucoup trop loin et c'est moi qui vous le dis, pourtant je suis très très prépuce. Grosse passion pour le rab à la cantine. On a même Jamil Le Schlag qui a démissionné en direct et ça c'est un geste que j'ai trouvé super fort, très inspirant. Juste je voulais m'assurer que c'était pas censé être un mouvement de groupe. Non parce que vraiment autant j'adore sortir du lot, dénoncer, prendre parti. D'ailleurs jamais hésité à dire clairement qu'en 2001, j'avais voté pour Laure à la finale de Love Story et pas pour Loana. Et là, donc, niveau prise de risque, je pense qu'on est au max. Juste là, moi, c'est la fin de mon spectacle dans une semaine. Donc, j'aurais vraiment adoré vous dire que je démissionne par solidarité. Et financièrement parlant,
c'est pas possible.
Enfin, moi, niveau timing, ça m'arrange pas, quoi. Pour l'instant, je préfère quand même France Inter à France Travail. Et c'est pas du tout contre toi, Guillaume, si tu m'écoutes. Mais là, tu remplis pas assez de cases de mon bingo d'émission. T'aurais été noir, homosexuel, chauve ou fan de Pascal Obispo. Je me serais peut-être posé la question. Mais là, c'est trop juste. Et puis maintenant que Jamil l'a déjà fait, ça aura forcément moins d'impact que Jamil l'ait fait, ça a du sens. Politiquement, c'est fort, alors que moi, physiquement, on pourrait presque se ressembler avec Guillaume. Moi, ça a vachement moins d'intérêt, ce serait par solidarité. Et la solidarité, c'est très pré-Covid, non? C'est devenu un concept auquel on a tous très envie de croire, mais bon, finalement, c'est tous une raison. La solidarité, c'est comme le comeback de Céline Dion, en fait. La dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était à la messe dimanche dernier. Du concept de solidarité, hein, pas du retour de Céline Dion. Quoi qu'ils balanceraient un j'irai où tu iras en champ d'ouverture, franchement, ils auraient moins de mal à recruter des homosexuels, mais bon, il n'y a pas de tout gâteau, hein. J'étais à la profession de foi de ma nièce et on voit qu'ils sont en galère. Le curé a tellement survendu sa paroisse, j'avais l'impression de me voir il y a 5 ans en train d'essayer de persuader les mecs en boîte de coucher avec moi. Ah, vas-y, c'est bon, on rentre ensemble, moi, t'as pas envie? Je t'accepte pas, c'est ça. Allez, viens, si tu veux, je te souffre un petit jeu à main de cartes. Bref, il y a toujours un truc qui m'amuse quand je vais à la mais c'est d'observer tous ces gens qui se font un peu sermonner pendant 1h30, se faire rappeler au bon souvenir d'aimer son prochain comme soi-même, de se laver de ses péchés, donner de l'argent pour la quête. Ils sont passés au sans contact d'ailleurs pour la quête.
Ah bon?
Ouais, je me demande sur relevé bancaire à la fin du mois ce qu'il y a écrit SAS Jésus-Christ. Il y a même une petite panière dans laquelle est incrusté un TPE pour faire illusion, quoi. Ce qui fait que maintenant quand on sort de la messe plein de solidarité et qu'on dit aux sans-abri sur le parvis qu'on n'a pas de monnaie, bah pour une fois c'est vrai. Ouais, faut passer au TPE, les pauvres. C'est marrant que les gens prétendent être tellement dans le besoin, mais qu'ils se donnent pas les moyens de s'en sortir, à se demander s'ils ont vraiment faim. Ouais, ça va, c'est de l'humour noir, on a le droit, non?
Non.
Non? Bon, je sais pas. Bah, si jamais je suis viré, j'espère que vous serez solidaires.
Tristan Lopin. Dans quelques instants, nous allons recevoir Patrick Clastre, qui est historien du sport, et de voir si l'esprit Coubertin, c'est toujours d'actualité ou totalement has-been. Et puis, on va évoquer aussi la musique dans le film. Dans le film, l'esprit Coubertin.
Au soleil.
Ah oui.
Moment de solitude lorsque Benjamin Voisin chante a cappella. On n'est pas loin de cette version. Hein,
non, mais je trouvais ça touchant quand il touche, moi.
Ah oui, c'est touchant. Ouais. Chante, on est à ça du drame, mais c'est.
Non.
Il y a également.
Ah ouais.
Tout ça, c'est dans la BO de l'Esprit Coubertin qui est au cinéma en ce moment. Mais la musique dans vos vies, on va commencer par vous, Emmanuel Berco. Vous écoutiez dans les années 90.
Sois sûr, ta force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté.
Ayam, vous vous revoyez où, comment, dans quelle situation en écoutant Ayam? Ça vous replonge quelques années.
Bah c'était l'époque où j'étais où je faisais mon l'école de cinéma, la FEMIS, et je me souviens que donc on réalise des films hein, dans cette école, et je me souviens que j'écoutais énormément ce morceau pour me booster.
C'est vrai?
Ouais. Mais en boucle hein, parce que moi quand j'écoute un morceau, je l'écoute toute la journée et tous les jours.
Obsessionnel. Ouais. Ouais.
Et quand on écoute un morceau et qu'on est réalisatrice, on pense à DBO. On se dit un jour je
ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais ça peut être ça ou ça peut être vraiment. Enfin moi la musique dans mon travail me sert beaucoup à me donner une énergie. Même que je sais qu'avant de rentrer au théâtre, chaque spectacle a sa musique qui ne correspond pas du tout à ce que je joue, mais qui me donne la bonne énergie, la bonne vibration, comme le diapason.
Okay.
Et donc ça, c'est vraiment lié à oui, ces moments où je faisais mes premiers courts-métrages. Voilà.
Et vous avez un passé de danseuse. On parlait du sport tout à l'heure, du sport à la télé, mais du sport en pratique. Vous avez beaucoup dansé.
Oui.
Vous avez beaucoup dansé au point de faire une école de comédie musicale, je crois, avant, bien avant la FEMIS, tout ça.
Ouais, bien avant, ouais.
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 Au point pour devenir comédienne déjà ou...
Ah non, 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 moi je voulais je voulais être danseuse, et à travers cette école où on était obligé aussi de chanter et de faire du théâtre, j'ai découvert le théâtre, et là j'ai arrêté la danse du jour au lendemain, hélas. Et voilà, j'ai...
Le théâtre l'a emporté.
Ouais, le théâtre l'a emporté.
Vraiment à ce point-là.
Ouais. Pourquoi?
Complètement. Hein?
Pourquoi?
Ah, je sais pas, j'ai eu une révélation. Mais maintenant,
on peut faire passer des émotions en dansant aussi. On peut...
Mais complètement. Mais maintenant, je regrette énormément. Hein. Enfin, moi, je sais que quand je vais voir un spectacle de danse, à la fin, je me mets à pleurer. Enfin, il y a un truc. Non, mais un truc. Il y a une espèce de deuil que j'ai pas fait de ça. Bah, voilà.
Dans ces mêmes années 90, Benjamin Voisin, vous écoutez. Épaules, il a le groove, Benjamin. Benjamin sur une piste, à mon avis, ça va être chaud.
Oh, ça donne, hein. Ça envoie. Au bon cas, ça donne. Il y a des mecs qui me proposent souvent de voir Mario Kart. De...
Milieu des années 90, vous êtes né quoi en fait. Voilà. Vous êtes né en 96, donc on.
Il me semble qu'il y a ça dans la voiture de ma mère quoi. Il me semble que j'entends un truc comme ça quoi.
Elle ressemblait à quoi votre enfance? Vous avez grandi où?
La voiture de ta mère.
C'était une Twingo. Quatre portes.
Vous avez grandi dans le 16e arrondissement, vous racontez ça dans
votre interview.
Ouais.
Ouais. Bah à côté ouais.
Ouais.
J'ai
ça ressemblait à quoi déjà à l'époque?
Ouais. Assez parfaite dans le sens où mes parents se sont séparés très tôt et ils ont très vite retrouvé des conjoints respectifs.
Ouais.
Donc j'ai eu la chance et la beauté d'avoir quatre éducations de gens qui m'aimaient profondément. Et je crois que c'est un des trucs sur lequel c'est vraiment de la chance. Je peux
c'est
faire
fort
beaucoup de bêtises.
Ça, c'est-à-dire de partir de ce qui pourrait être entre guillemets quelque chose de malheureux, mais d'en faire une force.
Ah ouais, moi c'était vraiment en gros ce qui manquait à l'un, l'autre l'avait forcément. Donc j'ai l'impression d'être une communion de toutes ces valeurs-là. Et on n'en parle pas assez, mais pour être acteur, pour travailler les émotions et se buter à. Il faut 4 parents. pour jouer des choses.
Vous voulez être acteur,
de papa,
aux parents
de maman.
Ouais,
voilà.
Non, il faut un bon entourage. Et moi, ils ont été très présents pour moi tout au long de ma jeunesse. Quoi.
Y compris dans le soutien de cours de théâtre à l'école.
Ouais, même dans les bêtises, dans tout. Quoi.
Ça veut dire quoi le soutien dans les bêtises, pardon? Pas de punition, vous voulez dire?
Il y en a un qui punissait, mais l'autre qui disait ça va. Et puis, ça se travaille, quoi. C'est...
Mais son père est acteur aussi. Oui. Et professeur de théâtre.
Il est dans le film, il joue mon père dans le film, l'Esprit Coubertin.
Ah, c'est lui, le gendarme.
Ouais.
Ok.
Ah, je passe mon père. On se régale ici.
Ça cachetonne,
hein. Ouais. Dans 30 ans, j'ai mis toute ma famille.
Et qui est 4 fois plus nombreuse que n'importe quelle famille normale en plus. Emmanuel Berco, vous, dans l'année 2015, vous écoutiez. Ça sent la fin de soirée, celui-là. quand il y a 6 toi là généralement c'est, on est déjà en train de transpirer depuis un bon bout de temps. En 2015,
grosse année à Cannes en 2015, Emmanuel Berco, puisque La Tête Haute que vous avez réalisé est présentée en film d'ouverture et vous recevez un prix pour Mon Roi de Mai Wen, prix d'interprétation.
Oui,
ouais. C'était incroyable, historique.
10 jours d'intervalle, ouais. Ouverture, ouais. Film, 10 jours après, prix.
C'est chaud.
Une fois qu'on fait ça, on se dit c'est bon, Cannes.
Je peux rentrer.
Je fais plus le déplacement pour moins de 2 prix en fait.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'écoutais cette musique parce que j'avais compté qu'en 7 jours à Cannes, j'avais dormi 14 heures.
Ah ouais.
Et il y a une nuit où j'ai dormi 7 heures.
Ça fait pas beaucoup pour
et
les
donc,
autres.
Donc j'avais vraiment besoin de cette musique pareil pour me donner un petit peu de courage.
Déjà qu'on est fébrile, j'imagine, quand on monte sur scène pour recevoir une récompense, mais alors quand on n'a pas dormi,
ah ouais.
On est capable de tout. Vous faites peur dans ces cas-là ou pas?
Quand quoi? Quand j'ai pas dormi?
Ouais.
Non mais en réalité, ce Cannes de 2015, c'était une espèce d'adrénaline constante en fait. Ouais. Donc
c'est après qu'on s'écroule.
Ouais, c'est après. Ah oui. Par contre, j'ai mis un mois et demi à m'en remettre.
Et comment ne pas péter un câble, si je peux me permettre l'expression?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire quand il y a autant de réussites, autant d'étoiles alignées et que tout le monde vous complimente à tous les. Dans
ouais,
tous les
mais vous savez comment c'est. C'est-à-dire que c'est un moment.
Ça m'est jamais arrivé, non?
C'est un moment, c'est un petit peu irréel, c'est un petit peu too much et tout, puis vous rentrez à Paris et puis tout s'arrête.
Ouais. Et vous dites.
Je me souviens, j'étais en casting de mon film La fille de Brest, et moi, je fais toujours la réplique dans les castings avec les acteurs que je reçois. Et je venais d'avoir le prix d'interprétation, genre la veille ou l'avant-veille, et je me retrouvais à faire la réplique en me disant putain, mais il faut que je joue bien parce que ils vont dire c'est trop nul, ils vont dire mais putain c'est quoi cette ouais non très vite vous êtes non mais très vite puis c'est un peu irréel tous ces moments là donc voilà.
Et c'est marrant, vous avez dit sur scène, Mai Wen, t'as cru en moi comme personne avant, tu m'as regardé comme personne avant. Et ça correspond, me semble-t-il.
Au manque de sommeil.
À ce que dit Benoît Magimel aussi, vous concernant, pour La Tête Haute.
Oui, il dit ça, c'est vrai.
Ouais.
Ouais. Bah, on a tous. Je pense qu'on peut pas avoir tous des. Comme on peut pas avoir dans la vie. Plein de grands amours, il y en a quelques-uns. Et je pense que dans le travail, c'est pareil, il y a quelques grandes rencontres, et ça ne peut pas être comme ça à chaque film, malheureusement. Ce serait vraiment génial. Et voilà, ces personnes-là, elles changent forcément quelque chose dans notre parcours.
Et l'objet, la récompense, quand on la reçoit, on la pose symboliquement, l'expression c'est sur la cheminée, mais cette récompense, elle est où?
Ouais, alors là, on dirait que je viens de la voir parce que vous me parlez d'un truc qui est très vieux, j'ai pas eu le Molière hier soir. Si je l'avais eu,
C'était lundi soir.
Ah oui,
c'était
lundi, oui.
Mais comme elle n'a pas dormi.
Elle n'a pas dormi.
C'est loin déjà. Non, vous savez, vous n'allez pas me croire.
Vous ne savez pas où elle est?
Non. Vous n'allez pas me croire, mais je vous le dis quand même. Je n'ai plus jamais regardé ce prix depuis que je l'ai sorti de ma valise et,
okay.
et donc vous posé où... dans un endroit où on ne le voit pas. Hein?
Ah, d'accord, donc vous ne savez pas où
il est. Je sais où il est, mais je ne l'ai plus jamais regardé.
Ok, très bien. C'est résumé de ma vie, ça. dans cette même année 2015, Benjamin Voisin, vous écoutiez. Je n'ai aucune peine, je te nie ta race.
Que des bonnes ondes.
Une belle énergie, quoi. Ouais.
Une belle période de ta vie, Eve. Je m'entraîne à sourire devant ma glace, devant ma glace, devant ma glace. La capitale dans le Paris Est, dans le Paris Est. Tout arrive de Colombie à Rennes, Colombie à Rennes, Colombie à Rennes. Je rappe sale tellement avarié, que même ces putains de rats attrapent la diarrhée, attrape la diarrhée. J'encule Brandon et Dylan.
Brandon et Dylan.
Oui, bah déjà les prénoms.
Je fais exprès d'essayer le texte parce que j'imagine que. Parce que pour la ligne mélodique que vous choisissez ce morceau.
Non, c'est des textes sur le partage.
Comme texte.
Ouais.
Non, c'était intéressant. Je trouvais que Scaris, ce qu'il a apporté dans le rap, ça vient complètement des States et il y avait un truc de trap pur qui donnait un truc de Lego trip. Et moi, j'étais à Florent et je reçois ça comme une vibes. Et Florence, ça a été le tout début, ça a été hyper compliqué dans le sens où il y a 4000 personnes.
qui sont là.
Vous dites que c'est une usine, quoi.
Dans le sens, c'est une usine, oui. Mais moi, ça m'a plu énormément parce que je me suis dit, c'est une métaphore totale du métier. Mm. Il y aura 50 mecs qui me ressembleront au casting, 50 mecs qui ressembleront à lui, 50 nanas qui lui ressembleront à elle. Et je me suis dit, il n'y a pas mieux pour moi que si j'étais enfermé dans une petite école. Et c'est vrai que cet album-là, Or Noir, il y avait un truc qui m'habitait, où je voulais tout casser.
Sans être, entre guillemets, légitime justement dans votre éducation, dans votre tranquillité, dans votre, vous avez même dit, une enfance bourgeoise.
Ouais.
On n'est pas dans un vécu de banlieue, de violence, de gangster rap. C'est-à-dire
non, mais il n'y a pas besoin, on peut écouter plein de choses.
On peut casser de la porcelaine.
Le propos.
On peut casser de la porcelaine.
Le propos et l'énervement.
J'ai ruiné le buffet.
On peut se poser une question de légitimité sur le propos et l'énervement. C'est-à-dire
pourquoi c'est de l'ordre de l'émotion, je trouve.
Je sais, non, je pose la question.
Ah ouais, moi, non, je trouve que c'est comme si dans les années 60, un mec pouvait pas écouter du rock parce qu'il venait de. Non, je suis pas d'accord. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement, c'est de. Ce qui est cool quand même dans la société aujourd'hui, c'est de. On peut tout prendre, quoi. On peut aller choper un peu de chez tout le monde ce qu'on a envie. Et quelle émotion ça te crée en toi. Et à ce moment-là.
Et là, qu'est-ce que ça crée en vous?
Eh ben, il fallait que je casse aussi l'éducation qui était plus bourgeoise que j'avais. Parce que quand on monte sur scène et qu'on joue Corneille et qu'on doit jouer Polyeucte Martyr, qui est un mec qui va se fusiller pour faire un attentat religieux, bon bah c'est pas ma vie. Et essayer d'aller trouver des émotions qui sont différentes, c'est un métier, acteur. Les choses ne deviennent pas comme ça. Donc ce genre de truc. Dont en plus
donc on l'apprend en vampirisant, en volant les émotions des autres et en les observant aussi.
La phrase de, je crois, de Picasso, c'est un artiste est un copieur, un génie est un voleur. Et ça, j'y crois, moi. Je pense qu'il faut aller choper les énergies, ce que disait Emmanuel, de mettre un son qui permettait de rentrer sur scène. Ça, moi, j'y crois. Et c'est plus des sons qui m'emmènent sur des moments de vie, en fonction de ce que j'ai envie de travailler comme émotion.
Et est-ce que vous avez de la colère, vous? Parce que quand vous présentez votre adolescence, enfance, comme quelque chose de équilibré, quatre parents, super, quand tout va bien, scolairement, ça allait super et tout.
La colère, non, j'ai pas beaucoup de colère, moi. Ouais. Je suis très apaisé.
Ouais.
Ouais. Donc c'est pour ça, ce genre de musique m'aider à...
Bien sûr.
M'aider,
à retrouver cet état-là.
À la créer.
Et à le comprendre.
À la créer.
Ouais.
Et m'y approcher.
En 2017, Emmanuel Berco, vous écoutiez... Barbara et Jean-Louis Aubert. Vous avez rencontré l'un des deux?
Aucun des deux.
Et vous avez des idoles que vous aimeriez rencontrer?
Ah, alors, mes idoles, je ne veux pas les rencontrer.
Pour pas abîmer l'image?
Ah ouais, c'est vraiment un truc... je comprends pas qu'on puisse avoir envie de rencontrer ses idoles. Parce que quelque chose va forcément s'effondrer. Enfin, vous, c'est vrai que quand je vous ai rencontré,
pardon,
il y a rien qui s'est effondré.
On parlait d'idole.
J'ai continué à vous.
Mais vous attendiez à grand chose.
non, mais pour avoir eu la chance, d'en rencontrer quelques.
Vous en avez rencontré, ouais.
Mais
et ça, vous avez jamais été regretté de les avoir rencontrés?
Non, ça peut arriver, mais les. Notamment, il y a une personne qui m'a énormément déçu, et Jean-Jacques Goldman, et j'avais qui était
Jean-Jacques Goldman.
Non, et Jean-Jacques Goldman m'a dit, quand je lui ai dit, mais c'est quand même dingue, cet artiste, je l'adore, et pourquoi il se comporte comme ça? Et Jean-Jacques Goldman m'avait dit, les chansons sont plus belles que ceux qui les chantent.
Ouais.
Et cette phrase-là.
Bah, c'est le truc entre l'homme et l'artiste, quoi.
Voilà. Mais, sauf que Jean-Jacques fait partie des gens, non seulement ça fait du bien de connaître, mais on l'aime encore plus. De le connaître dans ce genre de méandre. Non, c'est des footballeurs, des rugbyman, des sportifs de haut niveau. Enfin, il y a plein de gens bien que l'on peut admirer et vouloir rencontrer. Ne serait-ce que pour leur dire, j'aime beaucoup ce que vous faites.
Ah ouais. Non, moi j'ai pas ça, non.
Non. Non. Ni dans le cinéma.
Ah non. Moi, j'ai été aux Oscars une année, accompagner Michel Zanavicius, tout ça pour The Artist. Et j'ai vu Meryl Streep, franchement, qui était vraiment pas loin. Elle était toute seule. J'avais vraiment un créneau de ouf.
Vous êtes posé la question.
Et je me suis barrée, mais à l'autre bout de la pièce.
Est-ce que vous êtes
posé la question? Je voulais même pas la regarder, en
c'est
fait.
Vrai
ouais, parce que je sais pas, c'est trop.
Il paraît qu'elle est insupportable.
Hein. Préserver. En plus, elle est insupportable.
Préserver le mythe, quoi.
Préserver le mythe. Ouais, j'aime bien moi la magie.
Dans ces années-là, on vous retrouve au théâtre, Emmanuel Berco, dans Dîner en ville, un texte de Christine Angot, mise en scène de Richard Brunel. Ça faisait un moment que vous n'étiez pas revenu au théâtre à ce moment-là, alors que vous avez vraiment commencé par ça.
Ouais.
Là, on vous retrouve aussi au théâtre en ce moment. C'est quoi le lien que vous entretenez avec la scène ?
C'est comment dire, la scène. Bon, je dis assez facilement que c'est, pour moi, c'est sans commune mesure avec le cinéma. Le théâtre, je le place vraiment bien au-dessus du cinéma. Il y a quelque chose de totalement, où c'est, pour moi, c'est la source du jeu. Je sais pas, il y a quelque chose de totalement, d'abord, c'est archaïque, le théâtre. Ça existe depuis la nuit des temps. Et ça ne peut pas disparaître. Oui. Parce qu'il y a juste besoin de quelqu'un qui monte sur une scène, mais même pas, qui se met sur les pavés d'une rue, et ça fait spectacle. Et puis, il y a cette chose qui est qu'on joue en continu. Ce qui n'existe pas au cinéma. Sauf quelqu'un qui va faire un film en plan séquence, peut-être, bon, c'est...
Azadavicius.
Un film sur mille. Oui, un film sur mille, mais ce sentiment d'abord, ce sentiment de rentrer sur scène, il est fou. Des fois, moi, en le faisant, je dis, mais on est complètement tarés. Hein. C'est fou, ce truc de mettre un pied sur scène et de se dire, les gens vont me regarder pendant 2 heures. Et puis,
on est vraiment à poil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun artifice, aucune échappatoire.
Poil, c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est ça que j'aime, c'est qu'on est obligé d'être complètement là et il y a une obligation aussi d'authenticité face aux gens qui nous regardent et d'offrir vraiment quelque chose aux gens qui sont là et qui nous renvoient tellement de choses aussi.
Si je peux me permettre, on est très proche aussi du monde du sport de haut niveau, c'est-à-dire que se retrouver sur une piste olympique à devoir en quelques secondes être le plus performant, le plus efficace et sans aucun artifice, sans aucune possibilité de s'échapper de la situation dans laquelle on est.
Ouais, alors ça c'est encore un cran au-dessus pour moi.
Tu vois,
parce que nous on peut être mauvais, c'est pas grave, on rejoue le lendemain.
Aux Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, ça, on peut pas rater le coche.
Ouais. Pour moi, c'est un truc de fou. Je peux même pas imaginer la pression mentale
C'est ça.
Je voudrais pas vivre ça.
Et dans ces mêmes années, vous jouez dans Fierté, et c'est là que vous vous rencontrez pour la première fois.
Oui, c'était son premier.
Pas premier tournage, mais premier rôle.
Ouais.
Offert par
Philippe Faucon.
Il avait un rôle énorme là-dedans.
Une mini-série, absolument. Et peut-être qu'on écoute sa musique.
Et absolument. Et c'était Brel.
Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens.
Chauf, Marcel.
J'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les
Et donc, Fierté de Philippe Faucon sur Arte, qui est une mini-série qui a été beaucoup vue. On vous a beaucoup vu dans cette série. Beaucoup de réalisateurs vous ont vu dans cette série. Vous dites que vous devez ça à Philippe Faucon.
Ouais, c'est clairement les metteurs en scène avec lesquels j'ai adoré travailler par la suite. La première chose qu'ils ont vu de moi, c'est Fierté de Philippe Faucon.
Vous incarniez quel personnage dans Fierté ?
Je n'ai plus aucun souvenir.
C'est vrai ?
Ah ouais.
Ah, vous l'avez effacé ?
J'efface super vite, moi.
Victor ?
Je pourrais même plus vous parler de
ce que vous avez fait hier.
Vous
voulez qu'on appelle un docteur ?
ça me panique dès que je repense à ce qui s'est passé. Ouais. J'aime bien avancer dans les choses en laissant la chose passer.
Mais que ce soit les mauvais ou les bons souvenirs, vous vous effacez tout.
Ouais. Okay. J'ai un rapport au passé très étrange. Un jour, il y aura une psychanalyse. Un jour, il y aura un débat. Avec
il y a 20 minutes, il a dit qu'il était apaisé quand même. Je commence à m'inquiéter.
Un démon intérieur.
Mais c'est peut-être la façon d'être apaisé, c'est pas de souvenir de ce qui s'est passé. Ouais.
Il y a un truc de vraiment de moment présent. Donc, quand j'ai fait quelque chose.
Derrière.
C'est pour ça que je rejoins aussi Emmanuel sur le théâtre. C'est quand même là où je prends le plus de pied. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passera demain ?
Et on passe vite à autre chose. C'est-à-dire chaque représentation efface la précédente.
Et la recherche, elle est infinie. Donc, c'est. Ouais.
L'Esprit Coubertin au cinéma avec Benjamin Voisin et Emmanuel Berco qui sont invités jusqu'à 12h30. On parle justement de cet Esprit Coubertin avec vous. Patrick Castre, bonjour et merci de venir à ce micro. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du sport. Qui était Pierre de Coubertin ?
C'est un jeune aristocrate parisien qui se saisit d'une idée anglaise, éduquée par le sport, les jeunes garçons, pour les empêcher d'exprimer la violence qui est en eux.
D'accord.
Il s'agit de les contrôler.
C'était pour canaliser les
pulsions de violence vis-à-vis des professeurs et aussi les pulsions sexuelles à l'internat le soir entre garçons. Voilà, c'est un de ses premiers arguments.
C'est vrai ?
Oui.
D'accord.
Ouais. Et deuxième argument, c'est de fabriquer une nouvelle élite française sans les femmes. bien sûr, sans les pauvres.
Bien sûr.
C'est, soi.
C'est entre soi. C'est
il avait des qualités incroyables. Donc, misogyne.
Oui.
Ok.
Antiféministe.
Antiféministe, homophobe, raciste.
Racialiste, je dirais, ouais.
Ah, c'est ça.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Rappelez-moi Daniel, ce sera
comment peut-on porter au nu quelqu'un qui porte des idées aussi archaïques et...
Bah, il faudrait le demander au monde du sport.
Anti-humaine.
Qui est pas ouais, vraiment capable d'autodérision. C'est le film montre qu'on est vraiment au cœur de la bêtise. Parfois, pas toujours.
Hein. Oui, enfin, c'est une parodie. Hein. Tous les sportifs ne parlent pas.
Non, bien sûr.
Ah bon?
Non.
C'est violent.
Je pense que vous attendez les JO avec impatience.
Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, je vais très loin, mais je vais regarder avec attention et lire beaucoup aussi. Oui.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle Pierre de Coubertin ou la paix. Pierre de Coubertin ou la paix. C'est-à-dire que les deux ne vont
pas. Non, mais c'est pas très amusant. Ça fait 25 ans que je travaille sur ce personnage, donc ça va faire rire personne.
Que vous n'aimez pas.
Je pourrais pas dire ça. Je sais pas trop mon propos. Hein, c'est un peu comme un acteur.
Vous l'avez choisi. Il y a un moment.
Oui, je l'ai choisi parce que justement, il était ignoré et puis qu'il était central. Je me disais, mais qui est ce personnage? Comment est-ce qu'il a pu s'imposer dans l'espace public médiatique aussi fortement? J'avais bien identifié un certain nombre de fonctionnements, on va dire, qui relèvent d'un passé très lointain. C'est pas vraiment un homme de son époque, il est plutôt du Moyen-Âge. Il veut fabriquer une nouvelle chevalerie française par le sport pour rivaliser avec les Anglais sur le terrain colonial, industriel, militaire, politique.
C'est fou, c'est-à-dire que c'est tout ce que l'on ne peut pas imaginer de l'esprit sportif, de tolérance, de partage, d'humain. Enfin, on est à l'opposé de ce que véhicule le sport.
Oui, tout à fait. Mais il a ces idées-là en lui, mais réservées à une élite. L'amateurisme, c'est une barrière de classe sociale, de genre et de race. C'est vraiment de l'entre-soi.
Mais pourquoi les Jeux Olympiques, ce sont les amateurs qui participent?
Eh oui, mais au départ, c'était juste les sportsmen, c'est-à-dire l'élite bourgeoise et aristocratique.
Au fond, le sport, c'est ça, c'est la performance de l'élite, quoi.
Donc, tout à fait. Et Coubertin n'a jamais contrôlé les Jeux Olympiques. Les organisateurs ont pu ouvrir les vannes à des sportifs issus de milieux plus populaires. Il n'a aucun contrôle là-dessus. Quand il y a des femmes qui ont participé, il était opposé, il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, ce qu'il a conçu, lui, c'est qu'il a théorisé, il a conceptualisé ce qu'on appelle l'olympisme, qu'il n'emploie jamais avant 1901, et il emploie le terme d'olympisme contre l'intrusion du politique et des marchands du temple dans le sport.
D'accord.
Pour protéger le sport. Son sport.
Donc les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, c'est lui ou pas du tout? C'est l'histoire qui l'approprie à Pierre de Coubertin? Ou c'est même la France qui dit que Pierre de Coubertin y est pour quelque chose? Ou est-ce que c'est l'image que les autres pays... Est-ce que les autres pays parlent de Coubertin?
La France n'embarque pas vraiment Coubertin avec elle parce que c'est un républicain rallié de mauvaise foi, parfois.
Oh, punaise.
Qui s'est éloigné de la République au moment de l'affaire Dreyfus, qui s'est à nouveau éloigné au moment de la victoire du cartel des gauches en 24, à nouveau au moment du Front Populaire en 36. Donc, c'est pas un personnage que la République embarque avec elle. C'est aussi pour cela que l'Élysée, probablement, n'a pas cherché à le panthéoniser. Par contre, à l'étranger, il est très apprécié parce qu'on ne le connaît pas. Voilà. Enfin, en tout cas, on le connaît tel que le CIO le présente.
Oui.
Voilà, enfin, l'inventeur des Jeux Olympiques. Mais c'est pas simplement ça.
Il est allé jusqu'à soutenir les Jeux de Berlin en 36?
Oui, oui. En tout cas, il s'est opposé au boycott.
Ah oui, donc... Enfin,
Mais il a déclaré son admiration pour Hitler.
Ok.
Et dans une lettre, il disait qu'il préférait quand même Hitler à Mussolini.
Est-ce qu'il y a un truc positif à dire sur Pierre de Coubertin ou pas?
Si vous me laissez un peu de temps, je vais pouvoir.
Alors,
franchement. Oui, il a compris ce que c'était que la mondialisation sportive, hein, c'est-à-dire les échanges qui étaient tout à fait neufs à son époque, les années 1880, entre athlètes, clubs, à l'échelle transatlantique, avec les Anglais, les Belges, les Américains, les Argentins, les Cubains. Ça, il l'a compris, il l'a conceptualisé. C'est un élève des Jésuites, mais c'est aussi un élève de l'École libre des sciences politiques, Sciences Po aujourd'hui. Donc il a été formé à... Voilà, il a une culture de la mondialisation. Il est formé pour être un homme politique et un ambassadeur, ce qu'il est devenu à sa manière. Et il a surtout théorisé le cérémonial olympique, il a inventé le serment, le drapeau.
Est-ce que oui ou non les anneaux représentent des couleurs racistes
De
continents ou c'est simplement chaque drapeau de chaque pays du monde peut retrouver sa couleur dans l'un des anneaux?
C'est effectivement cela. Hein. C'est-à-dire que chaque pays doit pouvoir trouver ses couleurs dans les couleurs des anneaux, sur fond blanc, on oublie de le dire, c'est un drapeau quand même de la paix. Coubertin, en 1889, il est introduit dans les congrès de la paix, c'est-à-dire qu'il est introduit au pacifisme libéral, à la paix par le sport international. C'est pas la paix des socialistes, hein, qui refusent la guerre, c'est une paix des libéraux, patriotes, mais c'est une paix quand même par les échanges, échanges commerciaux, l'éducation, évidemment aussi l'échange athlétique. Et c'est ça son projet, c'est de lancer des compétitions qui servent la cause de la paix internationale.
Est-ce que la statue que l'on voit dans le film tachée de rouge, alors je ne sais pas si elle est vraiment tachée de rouge, mais est-ce que sa statue existe vraiment ?
Je ne crois pas.
Non ?
En tout cas, je serais intéressé à savoir pourquoi le film n'a pas pris le nom Jeux Olympiques. Parce que d'abord, vous n'auriez pas pu acheter les droits.
Parce que, je pense que
on pouvait même pas dire Jeux Olympiques dans les dialogues.
Ah, wow. Voilà, ouais.
Non.
J'ai eu une même aventure à peu près semblable avec mon éditeur.
Ah oui.
Donc, Kojo est intervenu en gros pour faire capoter le livre. Et quand ils ont rompu le contrat, ils ont dit, vous pouvez le publier si vous le souhaitez, mais sans le mot Jeux Olympiques, ça ne sera pas vendu dans la boutique officielle, et ça sera à 6 chiffres pour acheter les images.
Ok. Wow, en même temps, j'imagine, vu ce que vous racontez sur Coubertin, ils n'ont pas vraiment envie que vous associez aux Jeux Olympiques.
Mais bon, ah oui. Je travaille à 300 mètres du siège du CIO à Lausanne, hein. On les invite, ils nous invitent. Voilà, Thomas Barr, le président, nous a dit que comme nous, il se méfiait beaucoup de l'université, comme nous, on se méfie beaucoup du CIO.
Ah oui.
Mais ça n'empêche pas d'avoir de bonnes relations. Les archives du CIO
sont ouvertes.
C'est un lieu formidable pour travailler, je vous encourage à venir.
Pierre de Coubertin, Où la paix par le sport, c'est aux éditions Presse Universitaire de Rennes. Merci beaucoup, merci. Patrick Astre, d'être venu nous éclairer sur Pierre de Coubertin. Voici Alexis Lerosti. Bonjour à tous. Quelles sont les nouvelles du monde, Alexis ?
Oui, bah alors elles sont bien, vous allez voir. Mais une petite intro avant. Parce que récemment, je suis revenu vivre à Paris, après 2 ans passés à 30 km de Paris. Ah. 2 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me rendre compte que vivre pas très loin de Paris, c'est pas exactement comme vivre dans Paris, quoi. Entre les deux, il y a une petite nuance qui s'appelle l'ennui. Dans mon cas, hein, je dis pas qu'on s'ennuie systématiquement en dehors de Paris. Au contraire, il y a plein de choses à faire. Il y a des petits théâtres où on peut voir des artistes pas connus mais prometteurs, comme Christian Lopin, par exemple, ou plus installés, comme moi. Voilà. Vous me voyez souvent au cinéma ou dans les séries, moi ? Ben non, parce que j'en ai pas besoin. Il y a les escape games aussi, des endroits où on peut faire du lancer de hache, des fury rooms. Est-ce que vous connaissez les fury rooms ?
Non.
C'est des salles où on peut péter un câble et tout casser.
Ah ouais. Ah,
voilà, il y a des ordi, on te donne une batte de baseball et tu casses tout. Et ça cartonne. Faut réserver des semaines en avance. Ce qui fait qu'il faut prévoir d'être énervé ce jour-là. C'est pas évident, quoi. Tu médites le matin, t'es pas bon, quoi. Et évidemment, hors de Paris, il y a aussi des grands centres commerciaux autour des ronds-points. Pour ceux qui considèrent que se promener entre un magasin Jules et une boutique Jennifer, c'est un peu une sortie entre amis, quoi. Il y a tout ça en dehors de Paris, mais moi, je me suis quand même un peu fait chier. Du coup, j'étais tout seul chez moi. Tu veux une infusion? Oh, je sais pas. T'en prends une, toi? Ouais, oui, j'en prends une. Oh, ben, j'en veux bien une aussi, alors. Voilà. 2 nuits tranquilles tous les soirs.
Punaise.
Pendant 2 ans, j'ai passé mes nuits à avoir envie de dormir et envie de pisser simultanément. Ça, couplé à mon indécision naturelle, ça n'a pas été simple, hein. Finalement, j'ai acheté un leaking size pour garder un côté sec. Les nuits où j'avais envie, la flemme de me lever. Ça s'est bien passé, quoi. C'est l'avantage du célibat. Bref, hier après-midi, j'étais dans un café à Paris, ma ville maintenant.
Folie.
Et j'écoutais les gens parler. C'est comme écouter France Inter, sauf qu'on n'est pas interrompu tous les quarts d'heure par des comiques. Et ça fait du bien. Putain. Franchement, c'est bien ce que fait la direction en ce moment. Ça va alléger la grille un peu. Alors les enfants qui étaient assis à côté de moi parlaient de l'Iran. Les gens qui parlaient de l'Iran, pardon. Pas en mal, mais pas en bien non plus. En mal bien. Un truc entre les deux, quoi. Comme quand on fait des phrases qui commencent par « je l'aime bien, mais ». Oui, je l'aime bien Leïla, mais faut pas la croiser en soirée, par exemple. Ou je l'aime bien Manuel Berco, mais je la trouve trop pro-chasse. Ou je l'aime bien Nagui, mais... Ouais, là, ça va faire long pour une chronique. Alors l'Iran, j'y suis allé. C'est vrai que sur le papier, il y a de quoi en parler en bien. Les paysages, la culture, l'architecture, la gastronomie, la poésie, les caravansérails de la route de la soie, le thé aussi. Les gens m'en proposaient tout le temps. Tu veux du thé, Alexis ? Volontiers. Un autre thé ? Avez-vous un Magda King Size ? Oui, bon, d'accord, j'en prends un. Le seul bémol, finalement, en Iran, c'est l'ambiance. Déjà que c'était pas connu pour ses clubs de salsa et ses soirées mousse, en 2024, ça régresse encore. Après le mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022, dont la répression a fait quand même 551 morts, certaines femmes courageuses avaient arrêté de porter le voile obligatoire, et peu à peu, l'État avait un peu relâché la pression, quoi. Mais là, l'ayatollah Khamenei vient de renforcer la police des mœurs. Et je vous explique, la police des mœurs, c'est des policiers qui passent leur journée à regarder les femmes afin de s'assurer qu'elles s'habillent pas d'une manière qui serait susceptible d'attirer le regard des hommes. Leur job, il n'est pas facile. Ils voient une femme, leur regard est attiré,
forcément, leur boulot, c'est de les regarder. Et après, ils doivent juger s'ils ont été attirés par elle simplement parce que c'était une femme ou parce qu'elle portait mal le voile. C'est l'œuf et la poule, leur truc. Ils doivent être fatigués en fin de journée. Mmh. Autre dérive. Après 2 ans d'emprisonnement, un rappeur vient d'être condamné à mort pour avoir amplifié la voix des sans-voix pendant les émeutes de 2022. Ça veut dire qu'il a été condamné pour avoir une voix qui porte. Grand corps malade en Iran, mais il n'aurait pas fait la même carrière, quoi. Bref, les choses vont mal là-bas. En 2024, le régime des mollahs exécute un Iranien toutes les 5 heures. Rien qu'en avril, 72 personnes ont été exécutées. Alors j'ai fait le calcul, ça fait 1 toutes les 10 heures. Donc en fait, la moyenne n'est pas bonne. Mais bon, les journaux disaient toutes les 5 heures. Voilà. Pour leurs idées, pour leur défense de la liberté et contre leur liberté d'expression. On a bien de la chance d'être en France, et même sur France Inter, enfin il me semble, quoi. Puisqu'on entend peu parler, je rappelle encore qu'il y a 4 Français détenus arbitrairement en Iran depuis plusieurs années, dont 3 qui étaient simplement partis voir les paysages et découvrir la culture. Comme quoi c'est beau l'Iran, mais le problème, ça reste l'ambiance, quoi. Bonne journée, monsieur.
Merci. C'est vrai et c'est triste.
Alexis sur scène à Ilkirch, c'est en Alsace et ce sera le 21 mai et en septembre, à partir de septembre, à la Gaîté Montparnasse à Paris. Alexis sur scène, il est bon, mais...
Il est quoi ?
Il est bon, mais...
Ah oui, mais c'est trop long, on n'a pas le temps. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler dans la prochaine demi-heure ?
Écoutez, on va rester dans la bonne ambiance, je vais vous parler de la mort. Que critiquer des stars mortes depuis 40 ans, parfois, ça rend triste les gens qui les aimaient, quoi, au final.
On continue de parler de l'esprit Coubertin avec nos invités, Emmanuel Berco et Benjamin Voisin. Ce film sorti ce mercredi de Jérémy Saint, j'ai pas assez dit son nom de ce réalisateur totalement barré, fou et bon réalisateur. Et directeur d'acteurs brillants, parce que c'est vraiment un casting 5 étoiles. On en parle après les infos. La bande originale avec...
Bonjour.
C'est Nantes, Lisa Delmoitier, Tristan Lepin, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel.
Bonjour Morin, Tristan.
Et nos invités Emmanuel Berco et Benjamin Voisin. Ce film avec Laura Felpin, avec Grégoire Ludig. D'ailleurs, est-ce que c'était la première fois... Non, c'était pas la première fois que vous jouiez tous les deux ensemble, mais vous avez découvert qui sur le tournage que vous ne connaissiez absolument
pas ? Moi, je connaissais personne à part Benjamin.
Greg, tu l'avais pas ?
Jamais. Mais Ludig, non. Je savais même pas qui c'était.
Ah ouais ?
Grégoire Ludig. Grégoire Ludig, je ne savais pas qui c'était, je sais pas. Le Palmacho, je connaissais pas.
En même temps, si vous regardez pas le sport...
Grégoire Ludig, c'est... un des mecs les plus gentils que j'ai jamais rencontré.
C'est une révélation pour vous, c'est vrai.
Une révélation. En plus d'être un super acteur. Ouais. Non, mais c'est un mec incroyable.
Moi, je l'avais déjà d'avant.
Oui, je sais.
Vous, c'était sur quoi vous l'aviez...
Nous, c'était sur Bonne Pomme.
Ah oui.
Ça, c'est un...
Ah, comme quoi, vous arrivez à vous souvenir de certains trucs que vous avez fait.
Bonne Pomme, c'est mon tout premier truc.
Du passé.
C'est
avec Gérard Depardieu.
Ouais, Depardieu de Neuf, premier film.
Ouais.
Grégoire et moi. Ouais, j'ai 16 ans, 17 ans. Ouais. Je suis perdu.
Et Grégoire, bon camarade.
Ah bah ouais, lui en plus il vient, à ce moment-là il sort de Palmacho, donc pareil, il commence un peu le cinéma, on est vraiment, on a les 2 monstres en face, on est tétanisés quoi.
Dans le casting il y a également Rivaldo Pawawi, moi c'est la première fois que je le vois au cinéma, je me suis...
C'est la première fois au cinéma tout court pour lui.
C'est vrai ?
Ouais.
Il n'est pas acteur,
régalé. Il n'est pas du tout acteur à la base.
Hein.
Il commence là.
Bah, il n'est pas acteur, enfin si, il l'est quoi.
Non, il n'était pas.
Non, mais voilà, non, mais
ouais.
Je viens par là.
Oui, il l'est bien sûr.
Il y a zéro doute sur la manière dont il joue. Laura Felpin, on est client, on le dit, on le sait, qu'elle soit seule sur scène ou au cinéma. Et elle joue tellement bien là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la gentillesse venant de cette femme qui accueille au village les sportifs et à la fois du mépris dans tout ce qu'elle dit sur les catégories, sur vous avez le droit, pas le droit.
Wow. Si. Je ne vois pas beaucoup de gentillesse chez elle. Hein.
Non, elle joue la gentille, pardon.
Ouais, elle est tellement hypocrite. Tellement, ouais.
Tellement. Et puis elle doit quand même gérer aussi...
de chien,
tout ce qui, tout, c'est ça. C'est-à-dire que gérer un village olympique, c'est chaud quand même. Et il y a Oratika aussi qui fait une apparition, on va dire, en ministre. Et sinon, autour de vous, Suzy Bemba, Chloé Le Crèf.
Le Cerf.
Le cerf, pardon. Ouais. Ah, ok, donc faute de frappe dans l'ordre des lettres. Kevin Garnicha, Lee Junkin et Suzanne Debecq, dont tu parlais tout à l'heure. 10 jours de compétition et aucune médaille n'a été remportée par aucun sportif français. Tous les espoirs reposent sur un seul sportif, joué par Benjamin Voisin, coaché par Emmanuel Berco, et qui sont pas tellement à leur place, quoi. Ils sont, voilà, ils savent même pas ce qu'est l'esprit Coubertin, ils savent même pas qui est Coubertin, ils sont dans une bulle, en tout cas votre personnage est totalement dans une bulle, heureusement qu'il y a le personnage d'Emmanuel Berco pour vous ramener à une certaine réalité.
C'est plus le personnage, je trouve, de Rivaldo qui me ramène à une certaine forme de réalité, mais ce qui est hyper intéressant.
Le roommate, trouve, hein, celui avec lequel vous partagez la chambre. Et
qui m'apprend une autre forme, de, ouais, la
bière, passion, la bière, le joint.
Professeur de fumeur de joint.
C'est ça.
Professeur de désir, professeur de
plaisir, quoi.
Ouais.
La vie, quoi.
Plaisir, quoi. Bonsoir. Et non, mais ce que je trouve hyper bien, c'est
Attends, il faut préciser maintenant. Tout ça, c'est de l'humour, évidemment. Nous ne prenons pas la consommation d'alcool et de drogue.
Ah, oui.
Non, je voudrais pas.
Ou tout ça avec modération.
Léa Salamé a déjà eu un problème sur les vannes autour de l'alcool. Je voudrais pas.
C'est un film.
Mais elle s'avoue sur son visage qu'elle a des problèmes avec l'alcool.
C'est un film, pardon.
C'est un film, une fiction. Ce que je trouve beau, moi, c'est aussi à quel point ce personnage, je le trouve rivé dans sa timidité, et que c'est comme s'il était tendu vers ça, et à quel point elle, il y a un lâcher prise. Et quand ils débarquent tous les deux, tu te dis, mais d'où ils viennent, quoi? Genre, comment ils ont fait pour tenir avant?
On peut pas dévoiler ni gâcher la fin du film qui est sorti, je le rappelle, mercredi dernier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi une tension. On se demande, au-delà de la comédie, du délire, de toutes les situations, on veut quand même savoir ce qui va se passer pour son parcours et comment ça va finir pour lui, podium ou pas podium, record ou pas record. Tout ça reste en suspens, et à tel point qu'il se prend une cuite pratiquement la veille du jour J. Et là, on se dit, c'est pas possible, quoi. Il va pas à nouveau gâcher tout ce qu'il couvre depuis 8 ans, parce qu'il rêve que de ça, lui.
Ouais, mais
il a quelques secondes pour... Ouais.
Il a rencontré le professeur Plaisir. Aldo, donc c'est, il commence à comprendre tout doucement ce qu'est, ouais, l'important, c'est de participer.
Et puis l'engagement.
L'engagement.
Et ouais, il découvre l'engagement aussi. Mmh. Il découvre la symbolique des jeux. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas que du sport, c'est aussi être présent, c'est aussi représenter quelque chose, c'est alerter sur certaines causes.
Ouais, et puis aussi, ces sportifs de haut niveau, comment gèrent-ils la tentation extra-sportive? C'est-à-dire, quelle vie ils ont par rapport au commun des mortels? Parce que c'est un véritable sacerdoce, ce qu'ils vivent d'abnégation, de sacrifice, d'état physique dans lequel ils peuvent se retrouver aussi. C'est-à-dire, il suffit d'une infime blessure pour que d'un coup, ils ne soient pas aussi performants que ce qu'ils avaient prévu.
Mais il y a une infantilisation des sportifs tellement de haut niveau, en vérité. Mm. Enfin, en tout cas, c'est raconté aussi dans le film par mon personnage qui le maintient totalement dans l'enfance pour garder la main sur lui. Parce qu'en fait, ils sont pas que le véhicule de leur sport, ils sont le véhicule de leur coach, du système, d'une nation. Ils portent énormément de choses de plus que ce qu'on leur demande, c'est-à-dire d'être performants et voir mieux que ça s'ils sont d'immenses sportifs.
Alors tout le monde est parodié, hein, que ce soit les sportifs, que ce soit les politiques et les médias aussi. C'est extrêmement drôle. La chaîne Info avec les bandeaux, les alertes les Info avec drôle. Les commentaires, les synthés, les deux spécialistes.
Les Dava.
Oh là 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 là.
Fantastique.
Tellement drôle. Ouais. Tellement drôle. C'est au cinéma, c'est en ce moment au cinéma, l'esprit Coubertin. Voici Tanguy Pastureau.
Allez, tant pis, je vais à nouveau prendre position sur un sujet brûlant, mais je refuse de me taire plus longtemps. Je suis contre la mort. Voilà, l'idée que dans cette équipe, à terme, tout le monde va disparaître, m'est insupportable, sauf pour une personne. Ça m'a toujours stupéfait qu'au quotidien, on vive comme si la mort n'existait pas. Et en même temps, ce serait intenable si on avait ça en tête en permanence. Hein, on serait au drive Leclerc, en train de ranger ses packs d'eau dans le coffre, et d'un coup, on se dirait, mais quelle vie de con. Sachant que je vais mourir, vite, faut profiter. Et on ferait l'amour, juste pour se sentir vivant, au premier produit sorti du caddie. Ouais. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux acheter des biscuits roulés à la confiture, et pas trop d'oursins pour faire des salades. Tu as raison sur ce point, Alexis. Cette tournée où les gens t'offrent des gâteaux n'aura pas servi à rien, contrairement à ce que disent trop de gens dans le monde de l'humour. Ne le prend pas pour toi, parfois il est un peu méchant, Tristan. Oui, j'ai décidé de tous vous monter les uns contre les autres.
C'est cool.
Hein, oui, parce que voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de drame à la bande originale comparé à ce qui se passe sur le reste de l'antenne. Une émission animée par des gens aussi instables psychologiquement que Nagui et Leïla peut pas générer autant d'équilibre et d'osmose. Bref, je suis contre la mort pour 300 raisons, mais j'en ai gardé 3 parce que sinon on va faire sauter les carnets de campagne de Dorothée Barba. Or, j'ai envie d'en savoir plus sur cette association d'insertion de migrants à travers la pratique du macramé en Haute-Loire. Je suis contre la mort, 1, parce que quand on meurt, nos proches pleurent, sauf si on est super riche et qu'on les a cités dans le testament. Je pense que la mort d'Elon Musk, ça va se finir en pool party avec au platine DJ Soif, le roi du cocktail 15 alcools. 2, parce que quand on meurt, on peut plus actualiser sa story Instagram, ce qui fait qu'on perd ses followers. Ou alors on a un copain qui tous les jours poste une photo de l'urne avec les cendres à côté de stars du cinéma. Par contre, à la fin du MeToo cinéma, il en restera 4 en tout. Donc il faut se dépêcher de mourir. Donc manger chez McDo, KFC, Burger King à tous les repas, ça devrait venir. 3, parce que quand on meurt, on ne peut plus se défendre face aux critiques qui nous sont faites. Et cette semaine, je suis tombé sur une interview de Patrice Laffont. Vous vous souvenez, Patrice Laffont, ex-présentateur de Fort Boyard. C'était comme Olivier Mine, mais avec un corps à la densité normale. En fait. Donc vous savez que France 2 arrête des chiffres des lettres, et Chamerois, et Cavrévière et Vizorek, enfin leur grille de la saison prochaine, ça va être une carte perforée. Hein, si on la met dans un orgue de barbarie, je pense qu'on entend la voix de Macron qui dit « il n'y a plus de sous hein, ». On connaît ici, on entend la même. Donc il voulait aussi stopper le magazine de la santé, mais bon, l'équipe a menacé de réaliser une coloscopie sans anesthésie sur les cadres dirigeants si ça se faisait, donc ils ont conservé l'émission. Or, Patrice Laffont, c'est aussi l'animateur historique des chiffres et des lettres, avant que Gromeschko prenne sa place. Et ça a fait comme chez Nesquik, quand Quick il Lapin a pris celle de Gros Quick. Ah. Donc en gros, Patrice Laffont dit qu'il est triste, voilà 52 ans de chiffres et des lettres et ça s'arrête. C'est vrai que c'est triste. 3 décennies de télé-réalité et de clash débile à la télé, mais ça nous a vidé la tête. Les nouveaux candidats, ils n'arrivaient plus qu'à faire des mots de 2 syllabes et 9 fois 3, ils répondaient 40. Mais Internet est ainsi fait que maintenant, à chaque interview de quelqu'un, les sites à clics ressortent les anciennes interviews, font un millimélo, comme disent les jeunes, de tout ça, et sortent le tout sous un nouveau titre. C'est ainsi que j'ai vu un lien avec écrit « Patrice Laffont, 84 ans, balance sur Louis de Funès, il n'aimait pas les... » Et là, je me suis dit, non, je vais pas cliquer, quoi. Pas moi. Non, mais je me suis dit aussi, qu'est-ce que De Funès n'aimait pas? Les noirs, les sushis, les livreurs Colissimo, les gens qui n'honorent pas les rendez-vous, ce sont les mêmes que les livreurs Colissimo. Hein, donc j'ai cliqué, et en fait, Laffont affirme que De Funès n'aimait pas les jeunes. Ouf! Je me suis dit, moi non plus, j'aime pas les jeunes. Je veux dire, quand ici, on a des stagiaires de troisième, je les renvoie sur les Salami qui leur fait boire l'agneau, le cartus lui a refilé depuis qu'il est sobre. Hein, en fait, Patrice Laffont a tourné avec De Funès quand il était jeune. Forcément, il a 84 ans, donc dans ses anecdotes, il y a ni Kev Adams, ni Squeezie. Hein, il explique qu'il a foutu le souk sur le tournage avec d'autres jeunes et que De Funès étant très pro, il les a recadrés. Voilà, c'est tout. Donc je trouve ça dur et inutile d'aller dire ça. Je veux dire, laisser rêver le public, t'as de con. Moi, quand j'étais petit, j'adorais De Funès parce que tous les enfants aiment qu'on fasse des grimaces. J'ai gardé ça quand je vois des filles faire des selfies avec la bouche en cul de poule. Mais je ris. Et là, association d'idées comme une autre, comme Pierre Hermé Macaron ou Facebook Terre Plate, je me dis que De Funès avait tourné avec un autre jeune à l'époque, Coluche. Dans l'aile ou la cuisse. Je tape Coluche sur Google. Vous savez, Coluche, c'est ce comique dont le rôle principal aujourd'hui est de figurer dans la phrase « On peut plus rien dire, de nos jours, Coluche, il serait en prison ». Eh bien, figurez-vous que dimanche, sur RTL, une radio moindre, Jean-Marie Poiré, réalisateur des Visiteurs, a déclaré « Coluche était un sale con dans la vie ». Là encore, il est plus là pour se défendre puisqu'il est mort depuis 86. C'est pour ça qu'on le voit plus à la télé. À part dans Samedi d'en rire sur France 3, hein, parce que si vous êtes dans cette émission, sauf si vous êtes Jean-Luc Lemoyne, c'est que vous êtes mort. Hein. Poiré ensuite explique qu'il a rencontré alors Coluche une fois, mais je le cite, il est parti avec une meuf en me laissant tout seul. Ce qui à tout le monde paraît logique. Si en soirée tu parles avec un réalisateur et un léger crush et que le concept de trouble te paraît moyennement attrayant, tu pars avec le léger crush. Voilà. Mais l'autre, 120 ans plus tard, lui en veut encore. Hein, pourquoi pas? Je veux dire, il faut entendre parfois Daniel Morin critiquer Jacques Chancel. Selon lui, pas assez reconnaissant, alors que, dit-il, je lui ai mis le pied à l'étrier. Bon. Conclusion, messieurs, ce que vous racontez sur ces gens morts ne sont pas des réalités, mais des ressentis personnels, autrement dit Vogel, parce que nous, on les aime bien peut-être en fait.
Merci
sur scène, Tanguy Pastureau pour son nouveau spectacle Un monde hostile à Paris. Ce sera au théâtre Tristan Bernard à partir du 3 octobre.
J'ai une question à vous poser tous autour de ce micro. Est-ce que vous avez reçu un pop-up de votre smartphone vous proposant de nommer la personne en cas de décès qui aurait accès à tous vos comptes
Non, à mon avis, non.
Moi, je t'ai mis toi, Nagui.
C'est à mon âge. Je pense que Apple ID a dû se dire, ok, lui, à son âge, on va...
Ils sont reliés à ton compte santé, ils se sont dit, palpite
trop. Non, mais c'est ouf. J'ai reçu ce pop-up avec... Tu crois ?
Non,
non, je crois que c'est une option Apple. Je crois que c'est une option quand tu tapes ton, ton code. Non, c'est de dire en cas de décès. C'est vrai qu'il y a des comptes.
Voix chaude.
Oh. Non, ce qui est dur, c'est que on a des potes qui sont morts et le compte est encore activé et on a encore des infos avec ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel sur tel réseau.
Son
en fait, il faut donner ses identifiants à quelqu'un pour qu'il les supprime.
C'est ce que propose.
C'est très important.
C'est ce que propose justement Apple. Mais ce qui m'inquiète, c'est d'être le seul à l'avoir reçu. Très bien.
Oui.
D'autres choses beaucoup plus intéressantes, Leïla, dans la culture.
Non, ça nous inquiète que tu reçoives ça. On cherche un comédien qui va opérer un petit virage dans sa carrière. Il était lundi soir au Molière, il est reparti bredouille.
Laurent Lafitte.
Absolument. Laurent Lafitte.
Il est sorti.
Il a annoncé sa décision à l'issue d'une représentation de Cyrano de Bergerac. Il quitte la Comédie Française après 12 années de bons et loyaux services.
Alors,
on l'avait
pour nous,
vu.
C'est bien parce que ça va être plus rapide à le présenter.
De la Comédie Française. Récemment, on l'avait vu dans Tapis de Tristan Séguéla, dans Le Molière Imaginaire aussi d'Olivier Py. Laurent Lafitte a annoncé, voilà, maintenant, quitter la grande maison dans laquelle il a bien grandi. Si on vous proposait, Benjamin, d'entrer à la Comédie Française, quelle serait votre réponse? Si Eric Ruff venait vous chercher?
Non, je suis trop solitaire. J'aime bien rencontrer des troupes éphémères et j'aime bien changer beaucoup d'équipes. Je me lasse super vite. Je partirai en cacahuète dans la même maison.
J'adore la franchise du mec. J'adore.
Je deviendrai fou. Je brûlerai tout l'intérieur.
On va s'arrêter là.
Il va vous appeler.
Oui.
Il va vous adorer, Eric.
Pour
vous mettre le feu.
Non, je pense pas.
Emmanuel, vous auriez ce tempérament-là aussi, comme Benjamin, impossible d'entrer dans une grande maison qui a ses règles, qui a une forme de hiérarchie aussi. Il y a les anciens, les tout nouveaux. C'est très codifié quand même, même si c'est une super maison.
C'est sûrement très codifié, mais on peut aussi s'éclater là-bas. Hein.
Ouais.
On joue tout le temps. Moi, c'est pour ça que je pourrais être tentée. C'est parce qu'on joue tout le temps. Qu'on rencontre énormément de metteurs en scène.
Et de mettre en scène aussi.
Non, je pense que ça peut être pour un temps. Mm. Je pense que ça peut être assez génial.
Oui. Faire une petite immersion, comme l'a fait Dominique Blanc plus tardivement.
Oui, tout à fait.
Il y a plein de chemins comme ça, la Comédie Française, qui est une maison de plus en plus ouverte.
Enfin, moi, j'ai plein d'amis à la Comédie Française qui sont très, très heureux
très
là-bas.
Heureux, ouais. Autre question, on cherche une équipe qui va concourir au JO. Une équipe constituée de 36 personnes.
L'équipe de France.
Qui n'a jamais gagné une médaille. Jamais depuis sa première participation. Alors, ça fait que c'est leur troisième participation au JO.
C'est un pays qu'il faut trouver.
Il faut trouver une équipe. Bah et oui, pourtant, ils ont du monde derrière eux. C'est pas un pays, ils ont du monde derrière eux. Ils représentent 100 millions de personnes.
Il faut trouver un sport ou un pays?
Une équipe.
Bah,
à l'équipe des réfugiés?
Absolument, Daniel. C'est l'équipe des réfugiés et des déplacés. Pardon, ils participent aux Jeux Olympiques. C'est leur troisième participation cette année. Ils sont sélectionnés par le CIO et certains se sont qualifiés par les voies traditionnelles. C'est le cas d'une boxeuse anglo-camerounaise, Cindy Ngamba, qui est une véritable chance de médaille. Et en fait, ce groupe n'a jamais reçu une seule médaille, ce qui serait symboliquement très très fort, parce que c'est une façon de mettre un éclairage sur le statut des déplacés et des réfugiés.
Et ils ont un drapeau?
Alors, ils ont pas une bannière, je crois qu'ils ont un truc, ils vont défiler, en tout cas, derrière une forme d'emblème, je sais pas à quoi ressemble leur drapeau. Une façon aussi de raconter leurs histoires individuelles, ils viennent donc d'endroits très très différents. Et aussi, une façon de raconter qu'ils ont fui leur pays, certes, mais qu'ils n'ont pas abandonné leur rêve de concourir internationalement et de remporter éventuellement une médaille.
Mais ils ont des entraîneurs, il faut un budget pour entraîner aussi les sportifs, pour les équiper.
Ils n'ont pas tous les mêmes conditions. T'imagines bien selon combien de temps et depuis combien de temps ils ont dû fuir leur pays, dans quelles circonstances. C'est une équipe un peu hétéroclite.
Ils se démerdent, déjà on organise la compète.
C'est touchant, c'est
ils
formidable.
Ils sont 36, il y a des portraits qui commencent à sortir dans la presse pour apprendre à découvrir l'itinéraire de Cindy Ngamba qui pourrait vraiment gagner une médaille et monter sur le podium et symboliquement venir faire une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Ça serait un peu fabuleux et c'était juste pour faire un clin d'œil. Forcément au film et à ce personnage qui vient militer lui aussi d'une certaine façon. Voilà.
Est-ce que comme le sport peut par moments porter des valeurs politiques, le cinéma aussi? Cinéma engagé?
Vachement, mais ça pour le coup je crois que c'est une question que je me pose pas encore maintenant et qui plus est, je trouve que c'est plus aux metteurs en scène quand même qu'aux acteurs. Ou alors je suis encore trop jeune pour y répondre.
Emmanuel, vous faites des films engagés?
Oui.
Un vrai film, ouais. On ne peut pas imaginer que vous réalisiez un film sans qu'il y ait un message, une valeur ou...
Non, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas tellement.
Une intention politique, ouais, c'est ça. Non, c'est ouais. Ça.
Non, non, j'ai envie de...
De bouger les choses.
Pas d'apporter des réponses et tout ça, mais j'ai envie de parler de choses qui me préoccupent, qui me tourmentent et oui.
Actrice ou réalisatrice?
Non, non, réalisatrice. Moi, je suis comme toi, en actrice.
Ouais, tu... Il enfin, y a le projet, il y a un truc...
Les trois, oui, mais les c'est trois... pas ça qui va me déterminer. C'est pas ça qui va me déterminer.
Les trois fantastiques?
Oui.
Ça, c'est avec Raphaël Quenard, Diego Murgia, et c'est de Michael Dichter. Ça sort le 15 mai.
Ouais.
Là. Donc, dans une semaine, vous y jouez quel personnage?
Je joue la mère complètement dépressive et démunie de ces deux gamins. Enfin, Raphaël Quenard, qui n'est plus un gamin, et son petit frère. Qui partent un peu en sucette dans un contexte justement social, économique difficile.
Ouais, une dernière usine qui se ferme dans un village. Lui qui sort de prison, c'est ça.
C'est... Ouais, c'est ça. Le grand frère sort de prison et le petit frère malheureusement va commencer à faire des conneries.
Vous êtes également à l'affiche sur Canal de la série Paris Has Fallen.
Ouais, bientôt ça va être bien ça.
Et vous êtes présidente de la République?
Ouais. Ouais, c'était dingue.
Genre.
Non, mais c'était dingue, franchement, de jouer une présidente de la République. Hein?
Ça se joue comment, une présidente de la République?
Ben, franchement, je sais pas, peut-être pas bien.
On s'inspire de qui, puisque ça n'a jamais existé?
Ouais. Non, c'était... Ouais, j'avais pas vraiment de référence, mais je me suis...
Vous êtes allé chercher vers...
Inspiré de Ben Affleck.
C'est-à-dire?
Super logique.
Je me suis dit, tiens, il y a un truc de la posture de Ben Affleck. Okay. De la posture physique.
Ouais.
Et je suis partie de ça et... Non, mais c'est... On a des chemins délirants parfois.
À voir. Il y a pour vous... À ouais, à voir. Non, j'ai hâte.
Je pense que la série va être vraiment super.
Mais c'est Ben Affleck qui a envie de voir, je sais.
On vous retrouvera, vous Benjamin Voisin, dans le film À la hauteur de Delphine et Muriel Coulin avec Vincent Lindon, Stéphane Crépon.
Je crois pas que le film s'appelle comme ça encore. On a encore des doutes sur le titre.
D'accord.
On sait pas encore lequel. Ça peut être À la hauteur, ça peut être Ultra, mais enfin bon, voilà.
Ok, et alors vous vous souvenez du personnage, parce que je sais que vous effacez rapidement...
Il vient de le tourner, là.
Non, plus aucun souvenir.
Non, je... ça serait drôle.
Non, c'est vrai,
je vois pas de quoi vous me parlez.
Oui, c'est un très très beau scénario sur la reconstruction d'une famille avec la disparition de la maman. C'est pas dans le scénario, mais on pourrait se dire d'une tumeur beaucoup trop tôt. Et donc du coup, trois hommes qui essayent de se recomposer avec une difficulté de dialogue la famille entre un père et un grand frère, un petit frère. Et l'un qui part un peu en cacahuète.
Une autre série consacrée à la cuisine, ou du moins un grand cuisinier, Antonin Carême. Vous jouerez le rôle, ouais, d'Antonin Carême. C'est une reconstitution historique, c'est une...
Ouais, je l'ai fini hier, dernier jour hier.
Alors
130 jours, c'était épuisant. Mais c'était hyper intéressant.
Jours. C'est énorme.
Enfin, ouais, comme... 125, trucs comme ça. Mais c'était... Ouais, ouais. C'est
l'un des premiers grands chefs de...
Bah, c'est celui qui a dit que les choses devaient être aussi bonnes que belles. C'est lui qui a dit qu'il fallait arrêter le côté horizontal sur les tables pour mettre de la verticalité, comme les immeubles commencent à arriver. Il lui disait que les plats devaient être pareils. On a gardé les gâteaux de mariage, enfin, on a gardé plein de choses comme maritage. C'est lui qui a inventé un très plat dessert. Enfin,
quand on fait un rôle comme ça, il faut se documenter, il faut lire, il faut s'interroger sur qui était le bonhomme. Il y a du boulot autre que celui d'acteur, entre guillemets, presque de documentaliste.
Ouais. Et puis, ce qui est cool, c'est que le mec avait écrit tout un bouquin sur sa vie en héritage. Donc, on a sa façon de penser.
Base de travail.
Ouais, qui était vachement cool.
Ça s'appelle donc Carême, tout simplement. Et quant à l'autre film de Delphine et Muriel Coulin, dès qu'on a le titre, on se fera un plaisir de le rappeler. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà. Désolé pour nos auditeurs un peu chelous qui m'ont appelé à la pause pour me dire qu'on n'avait pas assez parlé de la Twingo de la maman de Benjamin Voisin, des soirées boîte de nuit et after de Tristan Lopin, des nuits sans sommeil d'Emmanuel Berco. C'est vrai que l'émission était dense, hein, on n'a pas pu tout développer, mais bon, vous savez, l'important, c'est de participer. Désolé pour tous nos auditeurs qui se sont demandé, mais nom de Dieu, c'est quoi ces pièces de théâtre dont Emmanuel Berco et Nagui ont parlé, où les acteurs sont à poil sur scène? Alors non, c'est une façon de parler, voilà. À jouer à quoi, là. Mais si vous voulez une expérience nue et festive, je vous conseille les soirées boîte de nuit et festive de Tristan Lopin.
Et là, ne mettez pas la pression, hein, l'important, c'est de participer. Désolé enfin pour les costumiers, costumières, chefs d'écho du film L'Esprit Coubertin qui ont dû être très touchés par les propos d'Emmanuel Berco sur leur boulot qui consiste à, je cite, « habiller tout le monde en survette dans un décor cheap ». Alors les copains, faut pas le prendre personnellement, hein. Vous connaissez le proverbe, l'important c'est de
participer. Merci Benjamin Voisin, merci Emmanuel Berco, bravo. L'esprit Coubertin, pardon, réalisé par Jérémy Saint, son premier film, et c'est une réussite totalement déjantée. Lundi, puisque hey
non. C'est le week-end.
C'est pas vrai. C'est passé à une vitesse.
Cette semaine.
J'ai l'impression qu'on est mardi.
Pauline Clément et Vanessa Guide seront nos invités. Lundi, passez un très bon week-end. Merci et belle journée.